Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light. Split the night and touch the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one did disturb the sound of silence.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Nous amener en ville devait être la nécessaire étape finale de notre assimilation. L'absorption, l'effacement, l'achèvement de 500 ans de campagne génocidaire. Mais la ville nous a renouvelés et nous nous la sommes appropriés. Nous ne nous sommes pas perdus dans la multitude de gratte-ciel, le flot de masses anonymes, le vacarme incessant de la circulation. Nous nous sommes trouvés. Avons créé des centres indiens. Sommes venus avec nos familles et nos powwows, nos danses, nos chants, nos vêtements brodés de perles. Nous avons acheté et loué des maisons, avons dormi dans la rue, sous des voies express, sommes allés à l'école, nous sommes enrôlés dans l'armée, avons rempli les bars de Fruitvale à Oakland et de Mission à San Francisco. Nous avons habité dans des villages de wagons de marchandises à Richmond. Nous avons fait de l'art et des enfants, avons permis à notre peuple d'aller et venir de la réserve à la ville. Nous ne nous sommes pas installés en ville pour mourir. Les trottoirs et les rues, le béton, ont absorbé notre lourdeur. Le verre, le métal, le caoutchouc et les câbles, la vitesse, les masses déferlantes, la ville nous a avalés. Nous n'étions pas encore des Indiens urbains. Cela faisait partie de la loi sur la relocalisation des Indiens, qui faisait elle-même partie du programme d'assimilation des Indiens qui correspondait et correspond toujours exactement à son intitulé. Qu'ils soient à notre image et adoptent notre mode de vie, deviennent comme nous, et par conséquent, qu'ils disparaissent. Nous sommes nombreux à être urbains, désormais. Moins parce que nous vivons en ville que parce que nous vivons sur Internet, dans le gratte-ciel des multiples fenêtres de navigation. On nous traitait d'Indiens des rues. On nous traitait de réfugiés urbanisés, superficiels, inauthentiques, acculturés. On nous traitait de pommes. Une pomme est rouge à l'extérieur et blanche à l'intérieur. Mais nous sommes le résultat de ce qu'ont fait nos ancêtres, de leur survie. Nous sommes l'ensemble des souvenirs que nous avons oubliés, qui vivent en nous, que nous sentons, qui nous font chanter et danser et prier comme nous le faisons. Des sentiments tirés de souvenirs qui se réveillent ou éclosent sans crier gare dans nos vies. Comme une tache de sang imbibe la couverture à cause d'une blessure faite par une balle qu'un homme nous tire dans le dos pour récupérer nos cheveux, notre tête, une prime, ou simplement pour se débarrasser de nous.
Tommy Orange, le titre de votre livre « There is no there », c'est « Ici n'est plus ici » en français, ça veut bien dire que lorsqu'il y a fusion de ces deux histoires dans un même personnage, il n'y a pas d'endroit qui veut dire chez soi. Est-ce que tous les endroits peuvent être chez soi? Ce qui serait au fond le cas pour tous les Amérindiens, puisque la terre entière des États-Unis leur appartenait.
Yeah, this is why, when I first...
Oui,
Et d'ailleurs, quand j'ai lu la citation de Gertrude Stein, et à l'époque où je me documentais pour écrire ce livre, je voulais lire ce que d'autres écrivains avaient dit à propos d'Auckland. Il y a beaucoup de romans et d'histoires sur Auckland, évidemment. Alors qu'il n'y a pas beaucoup de romans sur l'expérience urbaine des Amérindiens. Gertrude Stein a écrit un roman et on lui demande pourquoi elle ne parle pas d'Auckland. Elle dit il n'y a pas de là-bas. Et son chez-soi n'est plus reconnaissable, dit-elle. C'est ça qu'elle voulait dire, en fait. Pour les Amérindiens qui essayent de se battre pour comprendre leur identité, il faut garder à l'esprit ce que c'est non pas seulement ce que nous pensons, mais ce qu'est la perception des autres à l'extérieur de la communauté amérindienne. Donc tout ça, c'est très compliqué. Donc le pays, comment était-il ce pays? On ne sait pas très bien. Néanmoins, pour être de manière authentique amérindien, il aurait fallu que l'on ait connu le passé, que l'on ait connu nos ancêtres, qu'on ait connu la terre telle que nos ancêtres la vivaient. Et ça, c'est impossible aussi. Donc là aussi, il y a une impossibilité. Donc c'est un roman contemporain que j'essaye d'écrire, mais la seule façon d'être amérindien, c'est d'être ailleurs, d'être nulle part. Et cette histoire des Amérindiens, ce n'est jamais une histoire contemporaine. Les Amérindiens, ils savent piloter des drones, ils savent se servir de téléphones portables et d'Internet. Mais en réalité, on leur assigne une autre identité, mais ce n'est pas la leur.
Mais d'ailleurs, en parlant d'identité, Tommy Orange, il y a quelque chose de très bouleversant chez tous les personnages, quasiment tous, de votre livre. C'est que parfois, quand ils s'aperçoivent dans une glace, ils ont un moment d'hésitation, mais ils ne se reconnaissent pas. Le visage qu'on leur renvoie n'est pas celui qu'ils pensent avoir. Il y a des enfants qui interrogent leur grand-mère et qui disent « mais que sommes-nous ?» Et puis il y a ce jeune garçon qui a appris tout seul, en se cachant sur Internet, à danser des danses indiennes et qui va s'habiller un jour en secret en indien. Il se regarde et il dit « un indien habillé en indien ». Et il y a ce dédoublement, cette étrangeté que ressentent tous vos personnages qui n'arrivent pas à se voir dans les yeux des autres tels qu'ils se sentent eux-mêmes. C'est une cassure chez tous qui est assez déchirante. C'est une cassure que vous ressentez vous-même encore tous les jours.
I think authenticity when it comes within the community.
L'authenticité dans la communauté, c'est un sujet difficile. Il y a certaines personnes qui croient être porteurs de la vérité sur l'authenticité de l'identité amérindienne. Lors de l'écriture de mon livre, il y a une couverture qui a été proposée et c'était un jeune garçon habillé avec un costume amérindien. Et moi, j'ai demandé à mon fils ce qu'il pensait de ça. Et il m'a dit « Dada, c'est toi ?» Et je me suis dit que le livre serait en fait une fausse façon de dépeindre l'identité amérindienne en me cachant derrière, vous voyez. Mais tout ça, c'est très compliqué à mon avis. Parfois, on m'a demandé ce qu'était l'identité amérindienne pour moi. Dans la question, en creux, j'entends « Est-ce que vous faites des danses traditionnelles? Est-ce que vous connaissez la musique traditionnelle ?» Il y a des gens qui me demandent à quel point je suis authentique et si je suis légitime dans cette identité. Personnellement, j'enseigne l'écriture à de jeunes écrivains amérindiens et j'essaye de leur expliquer quel est le point de vue de l'écrivain amérindien. Eh bien, moi, je suis écrivain amérindien et je parle de mes écrits. Et on peut penser que c'est ce que font les Amérindiens, parce que on n'a toujours pas le droit de faire des choses qui ne sont plus en référence avec le passé. Cependant, moi, je pense que la tradition, la langue doit être perpétué. Mais pour être authentique, ce n'est pas la seule chose qu'il faut respecter.
Mais d'ailleurs, en réponse à cette interrogation, Opal, cette grand-mère qui élève trois jeunes garçons, qui s'interroge sur leur identité, elle dit « Mais en fait, on est indien parce qu'on est indien, et savoir ne va pas nous rendre plus indiens. » Donc au fond, c'est aussi, on peut espérer que bientôt, aux États-Unis, avec l'écriture amérindienne, avec la compréhension de cette histoire, peut-être que cette évidence, on est indien parce qu'on est indien, deviendra peut-être quelque chose de plus paisible à vivre.
Oui, espérons. J'espère d'ailleurs que mon livre pourra jouer un rôle, modeste soit-il, mais en tout cas, il pourrait apporter une réponse à la question de la légitimité, de l'identité. Alors, il y a des gens qui font semblant d'être ce qu'ils ne sont pas, mais je comprends ce besoin de rigueur face à l'authenticité et la légitimité, mais parfois, il y a des extrêmes. Par ailleurs, j'espère que mon livre pourra contribuer à ouvrir l'esprit des éditeurs et des lecteurs. J'espère qu'il leur fera comprendre ce qu'est l'identité amérindienne aujourd'hui, parce qu'il y a 576 tribus reconnues par l'État fédéral américain. Il y a des jeunes Amérindiens qui vivent à Seattle, mais ils ne sont pas les mêmes que des Amérindiens qui vivent en Floride. Peut-être qu'il y a des Amérindiens qui sont gérants de casinos et qui ne parlent pas la langue d'origine de leur tribu. Tout ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a une immense diversité entre tous les Amérindiens aujourd'hui. Mais nous avons été écrasés par un point de vue monolithique quant à notre identité amérindienne. Il nous faut une compréhension de la complexité, de la dynamique qui est à l'œuvre au fil de l'histoire et qui a forgé notre identité. C'est ça que j'essaye de décrire. C'est ça ma modeste contribution. Mais j'essaye d'expliquer cela parce que pendant trop longtemps, on a permis, ou du moins on a laissé faire une mauvaise compréhension, une mauvaise peinture de notre identité amérindienne.
D'ailleurs, Tommy Orange, en France, on dit indien. Aux États-Unis, on dit amérindien. C'est absurde parce que, en fait, il y a vous le disiez, des centaines de tribus avec des noms différents. Comment faudrait-il appeler ces hommes et ces femmes qui viennent de tribus différentes et qu'on regroupe par facilité sous le terme autochtone, américain, indien? Comment doit-on les appeler?
Il y a des gens qui sont sensibles à ce vocabulaire. Certains Amérindiens se froissent quand on les appelle indiens. Mon père, lui, se considérait comme un indien. Pourquoi pas? Il y a d'autres qui sont plus sensibles à ce terme parce qu'évidemment, c'est utilisé à des fins de racisme, le terme indien. Alors, il y a pas mal d'Amérindiens qui veulent être appelés amérindiens ou alors appelés selon le nom de leur tribu. Il y a beaucoup de gens qui disent amérindien, American Indian, parce que ça, c'est le nom qui est survenu lors de la bataille des droits civiques. Il y a beaucoup de jeunes qui disent qu'ils veulent être native tout seul, qui est une sorte de raccourci de Native American, c'est très formel. Là, il y a d'autres personnes qui disent indigenous, autrement dit autochtone. Donc là, c'est lié à d'autres communautés autochtones. Pour répondre à votre question, il n'y a pas de réponse claire. Voilà.
En tout cas, merci beaucoup Tony Orange d'être venu ici parce que je ne vais pas dire que c'est un livre d'un écrivain native ou indien, c'est un livre d'écrivain américain. Il est traduit par Stéphane Rock, il vient d'être publié aux éditions Terre d'Amérique chez Albin Michel et il est hautement recommandable à tout le monde. Et je vous remercie d'être venu nous en parler aujourd'hui.
Merci.
Et merci à Xavier Combes qui nous a permis de nous entendre. Nous nous retrouverons la semaine prochaine aux environs de 19h20 et bien sûr après les informations de 20h, vous avez rendez-vous avec Xavier Le Herpeur pour une heure en série. Très bonne soirée à l'écoute de France Inter.